Priorité santé, Claire Hédon.
Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième partie de Priorité santé. Aujourd'hui, nous parlons de la conférence francophone sur le sida qui se tient en ce moment à Genève, en Suisse. L'occasion pour nous de faire le point sur les progrès de la recherche, sur les traitements, la prévention, mais aussi de parler des difficultés de financement de la lutte contre le sida. On en parle avec deux personnes de Médecins sans frontières, le docteur Isabelle Andrieux-Meyer et Bruno Yokoum. Également avec nous le docteur Mukumbi, qui est directeur d'Amo Congo, une ONG de République démocratique du Congo, et Marie-Joseph Atangana, qui est présidente de KidAIDS Cameroun. Juste avant les informations, on était en train de parler, entre autres, des difficultés d'accès au traitement dues à la baisse des financements qui se font sentir déjà sur le terrain, que ce soit en Afrique ou en Asie. Docteur Isabelle Andrieux-Meyer, je voudrais bien qu'on revienne sur cette question-là. Vous le disiez, on sait, il y a des préconisations qui ont été faites par l'OMS sur les traitements qu'il faudrait donner, de nouveaux traitements de meilleure qualité, mettre les patients plutôt sous traitement. Concrètement, ces directives de l'OMS ne peuvent pas être appliquées à cause de la baisse des financements ?
Tout à fait. Tout à fait. On a parlé de ce fameux seuil des CD4 là, pour mettre les patients sous traitement. On sait que si on pouvait mettre les patients avant que les défenses du corps soient trop diminuées, ils récupéreraient beaucoup plus vite. Ils ne seraient pas en danger de développer des infections graves. Et donc, c'est pour ça
que ils auraient moins de risques de contaminer.
Et tout à fait. Donc c'est vraiment gagnant sur toute la ligne. Et par exemple, au Congo ou en Guinée ou au Zimbabwe, ils veulent le faire, mais ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas parce que déjà, ils n'arrivent pas à mettre sous traitement les patients comme on l'a dit tout à l'heure au Congo. Ils n'arrivent pas déjà à mettre sous traitement les patients qui, à 200 CD4, devraient l'être. Donc c'est ça qui nous fait la grande préoccupation, c'est que les patients très graves ne sont pas sous traitement, ou ils l'étaient, et comme Henri l'a dit, ne le sont plus. Et en plus, ceux qui devraient l'être pour optimiser un petit peu la manière dont on soigne ne peuvent pas l'être. Donc ce sont des régressions, ça. Ce sont vraiment
c'est même pas qu'on avance plus, c'est qu'on régresse.
Ah oui, là, ce sont des régressions. Bruno... Si on retourne à des systèmes de cohortes fermées, comme en pédiatrie, des cohortes fermées, c'est notre hantise. Ça veut dire qu'on
ça veut dire clairement qu'on met pas de nouveaux patients sous traitement. Hein. C'est voilà. Une cohorte fermée, c'est ça que ça veut dire. Bruno Yokoum, à cela se rajoute un autre problème, c'est la question qu'un certain nombre de patients qui sont sous traitement depuis un moment développent des résistances, ont besoin de traitements de deuxième ligne, et là, ces traitements sont très chers.
Oui, exactement. C'est-à-dire que là, pour remettre un petit peu de perspective historique, hein, ce qui a permis un accès généralisé au traitement pour beaucoup de patients dans le monde, c'est la production de médicaments génériques à partir du début des années 2000. Et avec des instruments financiers comme le Global Fund, comme Unitaid, etc., qui ont permis de les financer. Aujourd'hui, au fur et à mesure que se développent certaines résistances, ce qui est quelque chose de normal hein, pour une pathologie, évidemment, on a besoin de deuxième ligne, de troisième ligne, de médicaments qui sont plus coûteux. L'exemple parfait, ce sont les médicaments pour le traitement de la tuberculose multirésistante, hein, qui sont extrêmement chers. Et évidemment, les règles de propriété intellectuelle qui soit permettent, soit ne permettent pas la production de ces médicaments à des prix abordables pour tous, changent complètement la donne en termes d'accès à ces traitements.
De façon claire, c'est-à-dire que ces nouveaux traitements, deuxième ligne, troisième ligne, ou ces nouveaux traitements contre la tuberculose, sont des traitements qui sont protégés par un brevet, qui ne peuvent pas être copiés. Il ne peut pas y avoir de générique.
Oui, exactement. C'est-à-dire, les entreprises qui les fabriquent sont protégées pour une période pouvant aller parfois jusqu'à 20-25 ans, dans certains cas. Et donc, cela renchérit le coût des programmes qui sont ensuite financés par les pouvoirs publics. Et on est devant le paradoxe d'avoir à la fois un désengagement public sur les financements et un certain nombre de coûts qui restent finalement artificiellement élevés en raison de certaines rigidités sur la propriété.
Est-ce que pour vous, justement, ces brevets sont un obstacle à l'accès aux soins ?
Écoutez, Ce qui est un obstacle aux soins, c'est le fait de ne pas avoir les assouplissements nécessaires à la propriété intellectuelle lorsqu'on est devant un impératif de santé publique. Et aujourd'hui, lorsqu'on a une épidémie telle que le sida ou une double épidémie lorsqu'elle est combinée avec la tuberculose et la tuberculose multirésistante, on est devant une urgence de santé publique qui fait des dégâts
Et
dans de
concrètement, vous
nombreuses
demandez
sociétés.
quoi? Vous demandez que ces médicaments puissent être génériqués?
Oui, absolument. On demande à ce qu'il puisse y avoir une production de médicaments génériques sur l'ensemble de la gamme nécessaire, et pas uniquement les médicaments, mais également les diagnostics, etc. Concrètement, lorsque ce prix repose sur les patients, hein, il ne s'agit pas uniquement des médicaments, cela empêche un accès suffisant.
Marie-Joseph Atangana, si je ne me trompe, vous avez été, je crois, une des premières patientes mises sous traitement au Cameroun, c'est bien ça?
Oui. Avec le concours de MSF à l'époque.
Justement, avec le docteur Isabelle Andrieu-Meyer que vous connaissez de cette époque-là, hein, c'est bien
Ouais,
ça.
ouais,
Est-ce que justement, vous êtes, vous, déjà sur des traitements de deuxième ou troisième ligne?
ouais. Non, je ne suis pas encore sur deuxième ligne. Après, en fait, je prends encore mon tout premier traitement, c'est-à-dire l'olovir et l'onivarapine. Et je suis en très bonne santé.
Et vous êtes en bonne santé, ce traitement fonctionne bien.
Ouais.
Vous le supportez bien et vous le suivez bien.
Ouais.
Vous êtes un exemple de ce qu'il faut faire. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans votre association KidAids Cameroun? Vous l'avez évoqué dans la première partie de l'émission, apparemment une des premières difficultés, en tout cas, c'est que les enfants ne savent pas forcément la maladie auquel ils sont confrontés, on ne leur dit pas.
Ah oui. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle en fait, nous avons mis la structure en place. C'est parce que nous avons trouvé qu'il y avait un gap entre le médical et ce suivi-là, qu'il était important justement d'accompagner les enfants dans ce processus-là, qu'il était important d'accompagner les familles qui avaient des souffrances auxquelles personne n'arrivait à répondre, puisqu'on se limitait juste au médical. Donc, c'est pour cela que nous avons mis la structure en place. Et d'autres activités, d'autres problèmes. Donc, en dehors de ce problème de connaître pourquoi est-ce qu'on prend, c'est le problème d'annonce du statut sérologique. Jusqu'à présent, nous sommes confrontés à la réticence, toujours, à la réticence des parents à ce que nous puissions le faire. Ça se comprend aussi parfois lorsqu'on n'a pas soi-même. On n'a pas soi-même
Bah
fini de
dit,
gérer
parce que
ses.
généralement, si ces enfants sont porteurs du VIH-Sida, c'est que la maman l'est.
Pas toujours, pas dans tous les cas, mais dans la plupart des cas, c'est que la maman l'est. Puisque nous, au niveau de l'organisation, nous avons et des enfants orphelins, donc qui vivent avec des parents de substitut, donc des parents tuteurs, qui forcément ne sont pas infectés. Mais pour les cas des enfants infectés, donc les parents eux-mêmes vivent une situation, ils n'ont pas fini de gérer leur séropositivité, les questions d'acceptation de la sérologie. Donc,
Et
ils sont
votre
réticents.
conseil, c'est quoi pour les auditeurs qui nous écoutent? C'est qu'il faut le dire à un enfant?
Oui, il faut le dire à un enfant parce qu'il faut le dire à un enfant parce que ça permet justement à améliorer l'observance chez l'enfant et par conséquent d'améliorer la qualité de vie et ça permet à l'enfant d'être en bonne santé. Ça permet à l'enfant de se construire et sur le plan moral, de faire son projet de vie en intégrant le fait que ça fait partie de sa vie. C'est très, très important.
Docteur Mukumbi, tout à l'heure, le professeur Gilles Brucker l'a dit pendant cette conférence francophone sur le VIH-Sida à Genève, il y a toute une partie où on insiste sur la prise en charge des populations négligées, stigmatisées. Qu'est-ce que vous faites à Amokongo dans ce domaine?
Ok, nous sommes très ouverts aux populations minoritaires, en particulier des usagers de drogue, mais les hommes ayant des sexes avec des hommes aussi. Donc, nous faisons une grande politique pour que, surtout dans nos communautés africaines, on puisse avoir une certaine ouverture d'esprit sur ce genre de choses,
C'est un
sur
sujet
ce
très
genre de
tabou, hein,
comportement. Oui, c'est
que
trop
ce soit
tabou,
la
mais.
question de l'homosexualité ou de l'usage de drogue.
Oui, il faut vraiment changer. Mais on a beaucoup de personnes qui nous font confiance, qui arrivent dans nos centres, et ça avance quand même suffisamment. Mais je voulais aussi ajouter rapidement, parce que tantôt on parlait de la question situation des femmes enceintes et des enfants. Dans mon pays, il n'y a que 2% des femmes enceintes séropositives qui ont accès à au programme de PTME, donc de la prévention de la enfants, ce qui est très grave pour un pays grand comme le Congo, avec plus de 80 millions d'habitants et avec toute sa superficie. Donc là aussi, on insiste beaucoup parce que justement, le Congo a été choisi comme pays prioritaire pour un accès, disons, pour le zéro naissance sida d'ici 2014-2015, mais sans les ressources, avec tout ce qu'il y a comme amenuisement des ressources, on ne sait pas comment on peut aller de l'avant. Donc ça, c'est à cause d'un problème énorme. Mais je voulais aussi ajouter quelque chose de très important.
Juste pour vous interrompre là-dessus, sur la prévention de la transmission mère-enfant, en plus, on sait très bien ce qu'il faut faire.
Oui, on sait très bien ce qu'il faut faire et c'est simple à faire, mais malheureusement, il n'y a pas de ressources pour le faire. Et on aura autant d'enfants qui vont naître séropositifs inutilement, alors qu'on peut combattre ça très facilement. Et mon pays n'a même pas encore dépassé le cap de 2%, ce qui est grave et c'est vraiment une urgence humanitaire par rapport à ça. Mais je voulais aussi revenir sur les malades qui étaient suivis en première ligne et qui partent et qui ont des ruptures, qui sont perdus de vue et qui reviennent après 6 mois. C'est avec des résistances, avec beaucoup de problèmes qui nécessitent encore plus d'argent, plus de molécules spécialisées pour les prendre en charge et qui ne sont pas disponibles. Donc nous sommes même en train d'hypothéquer tout ce qu'on a investi durant 4-5 ans parce qu'on n'a pas suffisamment de ressources. Nous sommes en train de rentrer à la case de départ. Donc ça pose encore une autre urgence humanitaire par rapport à ça. On a 350 000 personnes au Congo qui doivent avoir des traitements antirétroviral. Mais à ces jours, on est à 40 000, donc en dessous de 12%, et c'est grave. Et elles partent avec des résistances maintenant. On n'aura pas de médicaments de substitution, ça coûte plus cher. Et ça pose un problème de suivi, un problème d'initiation de traitement. Donc, c'est une sorte d'alarme générale qu'il faut donner sur ce pays et sur cette partie du monde.
Et docteur Mokoumbi, quand vous dites tout ça, vous avez l'impression d'être entendu
ou... Je pense que c'est mon devoir de militant de continuer à parler, à crier. Il y a de plus en plus de mains qui commencent à bouger, surtout entre associatifs, Médecins sans frontières. Nous tous, on a des coalitions pays, on marche, on défile. Demain encore, on a une marche qu'on va faire pour réclamer certaines choses ici, mais imaginez. Donc, c'est autant de choses que nous mettons ensemble pour mobiliser. Mais aussi, nous avons un appel vers nos gouvernements. Ce n'est pas seulement les bilatéraux internationaux qui doivent donner les moyens, mais nos gouvernements africains particulièrement se sont engagés à Abuja à ce que 15% de revenus nationaux, donc du budget national, soit affecté à la santé, sur lesquels 3-4% doivent être aussi là. Donc, ils ont tous signé des déclarations, ils ont tous été partie prenante, mais nous...
Et la RDC dépense combien de son budget à la santé? C'est quoi? C'est moins de 5%, 3-4%, non, c'est ça?
Oui, autour de 3-4-5% à peu près. Mais encore, lorsqu'il est voté, il faut qu'il soit décaissé. Ça, c'est une autre question aussi.
Et apparemment, en RDC, c'est pas décaissé. C'est ça que vous voulez dire? L'argent n'arrive pas.
Pas totalement. C'est des petits morceaux qui sortent. Et à la fin, c'est assez difficile de suivre et tout et tout. L'année passée, je crois que c'était 6%. Cette année, plutôt, dans le budget actuel, on se bat pour aller un peu plus à l'avant, mais bon, c'est pas encore tout à fait voté, donc ça pose encore un problème. Donc j'ai dit, par exemple, pour faire la PTME et tout, c'est pas des choses qui coûtent énormément cher, on devrait déjà faire un effort par le gouvernement local, autant encourager aussi les internationaux. Donc ça aussi, c'est un combat, nous, en tant que militants, il faut que le gouvernement puisse satisfaire ce qu'ils se sont engagés à Abuja eux-mêmes, ça a été signé, donc il faut l'exécuter. Surtout qu'au pays, on a voté une loi au Parlement où la prise en charge doit être gratuite. Et la prise en charge gratuite ne suffit pas seulement que le médicament soit disponible et gratuit, mais c'est les cliniciens qui doivent être soutenus financièrement, c'est la paraclinique, les examens laboratoires qui doivent être pris en charge. C'est beaucoup de choses, parce qu'on se voit souvent la face en Afrique, on dit les médicaments sont gratuits, donc la prise en charge est gratuite.
Attention, c'est loin d'être le cas.
Hein. C'est loin d'être le cas.
On a parlé justement des examens des CD4, ce sont des examens de laboratoire qui coûtent cher, et s'il faut les faire régulièrement, c'est un vrai problème d'accès aux soins pour les patients. Docteur Isabelle Andrieux-Meyer, est-ce qu'il y a quand même, vous avez sorti là un rapport Médecins sans frontières qui donne un peu un état des lieux de la prise en charge du sida dans un certain nombre de pays. Est-ce qu'il y a quelques pays qui avancent quand même plus en termes de prise en charge?
Oui, on regarde les taux de couverture, c'est-à-dire le nombre de patients sous traitement en Afrique du Sud, 55%, au Cameroun, 38%, au Kenya, 61%, Lesotho, 57%. Je veux dire, il y a des pays qui Enfin, je veux dire, oui, bien sûr, il y a eu des progrès de fait, et ce qu'on veut, c'est que les progrès puissent continuer, tout simplement. C'est-à-dire que l'ensemble des patients qui sont en besoin de traitement les reçoivent, et puis que des patients aient la possibilité d'une survie à long terme. L'exemple de Marie-Jo, c'est un exemple extraordinaire et extraordinairement porteur, c'est un encouragement majeur. Marie-Jo, c'est vraiment une de nos toutes premières patientes.
Marie-Jo, ça fait combien de temps que vous êtes sous traitement d'ailleurs?
Juin 2011.
Juin,
non, juin 2001, s'il vous plaît,
ça fait plus de 10 ans, ça va faire presque 11 ans que vous êtes sous traitement.
Effectivement.
Et donc vous êtes un exemple qu'on peut aller bien et mener une vie tout à fait normale.
Oui. Ce que je voulais ajouter à ce qu'a dit le docteur Isabelle, c'est que ce que nous voulons aussi, c'est que nous puissions, en fait, que l'accès au traitement soit disponible, c'est-à-dire qu'on puisse avoir vraiment tous les protocoles de traitement. Parce qu'au Cameroun, certes, il y a cette avancée, mais lorsque vous êtes confronté à des difficultés telles, aujourd'hui, quand vous allez au CTA, vous n'avez pas votre protocole de traitement, il y a une molécule qui manque, et qu'on vous donne une molécule comme ça, là, ou qu'on vous fait s'attendre pendant 2 semaines, 1 mois,
vous voulez dire qu'il y a des ruptures.
Il y a des ruptures permanentes de traitement au Cameroun.
Et vous, vous êtes régulièrement confronté à ça, c'est-à-dire un certain nombre de médicaments que vous ne pouvez pas avoir?
Peut-être pas moi, mais les parents d'enfants que je suis, et je travaille en collaboration avec les associations de personnes vivant avec, les CTA, au niveau des CTA, parce que nous travaillons aussi en collaboration avec des CTA.
C'est des centres de traitement ambulatoire. Hein.
Oui. Non, les centres de traitement agréés publics de l'État. Donc, c'est les problèmes que nous rencontrons là-bas. Des patients qui arrivent pour s'approvisionner en médicaments, mais n'ont pas de traitement. Il n'y a pas de traitement.
Et Marie-Josée Fontagana, pour qu'on comprenne bien sur cette question des ruptures de médicaments, cette rupture, est-ce qu'elle est due à une baisse des financements internationaux ou à un problème d'organisation interne du pays?
Je pense que c'est dû à une baisse de financement internationaux parce que l'État du Cameroun n'ayant pas véritablement prévu, il n'y a pas une ligne budgétaire qui est prévue par l'État du Cameroun. Donc, le financement de la lutte contre le sida, de l'accès au traitement au Cameroun dépend presque entièrement des subventions international, ce qui fait que quand il y a baisse, l'État n'est pas en même de souvenir à tout.
De continuer à acheter ses médicaments et à continuer à se fournir. Vous êtes d'accord avec ça, docteur Isabelle André-Meyer et Bruno Yocoum? Effectivement, c'est à chaque fois dû à une baisse de l'aide internationale ou de temps en temps à des problèmes d'organisation interne au pays?
Je crois qu'on a les deux situations selon chaque cas particulier de pays. Ce qui est certain, c'est que dans la dynamique de désengagement public qu'on constate aujourd'hui, on est face à une incertitude critique sur parfois la poursuite de programmes à échéance de 6 mois ou de 12 mois. La situation que décrivait le docteur Mukimbi tout à l'heure, c'est-à-dire d'avoir des groupes d'enfants sous traitement dont on ne sait pas qui continuera la prise en charge début 2013, c'est-à-dire dans moins de 9 mois, c'est absolument scandaleux comme situation. Et je crois, c'est pour ça que, je dirais, le message qu'on souhaite porter aujourd'hui, c'est que ce désengagement public, il est à contre-temps des avancées médicales, hein, c'est-à-dire que c'est au moment où justement se profile une maîtrise possible de l'épidémie, voire une baisse si on appuie des stratégies qui sont porteuses, qui sont décentralisées, qui prennent les gens à temps avant qu'ils soient malades, etc. C'est à ce moment-là que un certain coup d'arrêt est porté. Et cela va confronter des équipes de terrain à des choix éthiques qui sont eux aussi complètement inacceptables. C'est-à-dire, de nouveau, des médecins vont être confrontés à qui traiter en premier, alors que tout le monde a besoin d'être traité. Ou alors, on va continuer à tester des gens pour savoir s'ils sont positifs ou négatifs, sans avoir nécessairement de traitement derrière. Donc, finalement, les gens iront...
faire dépister s'ils ne savent pas qu'ils peuvent être mis sous traitement.
Voilà. Et donc, aujourd'hui, ce que nous demandons, hein, tout simplement, c'est qu'il y ait une réunion en urgence des pays donateurs en 2012 pour qu'ils puissent confronter ce problème pleinement et accorder de nouvelles sources de financement pour être simplement à la hauteur des enjeux. De ne pas, par des décisions de gel, finalement, perpétuer perpétuer une situation, c'est-à-dire une prolongation de l'épidémie, un développement de l'épidémie de tuberculose multirésistante. Et qu'est-ce que ça veut dire si on ne traite pas les gens à temps? Ça veut dire que ils vont venir dans des états de plus en plus sévères, ils vont avoir besoin d'hospitalisation, on va avoir un engorgement des systèmes de santé, et au final, tout cela sera plus coûteux pour tout le monde, pour les pays concernés et pour les financeurs publics.
Docteur Isabelle Andrieux-Meyer, on l'entend bien, on sait ce qu'il faudrait faire, mais est-ce que vous avez l'impression, là, dans une conférence francophone à Genève sur le sida, vous êtes réunis, entre guillemets, entre vous, tous convaincus de ce qu'il faudrait faire. Maintenant, ce qu'il faut, c'est convaincre les financements internationaux. Est-ce que dans le contexte de crise économique, franchement, vous avez l'impression d'être entendu? Est-ce que vous avez espoir de voir ces financements augmenter?
La première chose qu'il convient de faire, et c'est un consensus entre nous, c'est qu'il faut se remobiliser, c'est-à-dire les patients, les sociétés civiles, les scientifiques, les dirigeants. Il va falloir recristalliser une alliance qui permettra de défendre ce concept de soins qui est aussi la prise en charge d'une maladie chronique, déjà, et qui bâtit un système de santé vers la décentralisation, vers les communautés. Et ça, c'est au bénéfice de tous les patients. Donc on n'est pas en train de tout mettre sur une pathologie, on est en train de créer un système de soins plus compétent.
Et cette mobilisation, vous avez su faire à une époque?
Alors, on a su faire, et il faut en recréer une nouvelle qui va prendre la teinte de ces nouveaux enjeux. Parce que c'est au moment où, vous voyez, quand nous avons commencé en 2001 à traiter des personnes comme Marie-Jo, nous avions un traitement, il coûtait affreusement cher et nous n'avions rien d'autre. C'était une grande démunie, nous étions très démunis et pourtant nous l'avons fait. Et aujourd'hui...
De vous interrompre, mais à cette époque on disait d'ailleurs, mais ce que vous êtes en train de faire d'implanter des traitements en Afrique, en fait c'est impossible, les gens ne pourront pas suivre le traitement.
Absolument.
Et vous avez montré l'inverse. Hein.
Ah oui, mais Marie-Jo est là pour le dire aujourd'hui. Et en plus, donc, vraiment, c'est possible et on bâtit quelque chose pour l'avenir. Donc, recristallisons une alliance qui nous permette de défendre un système de soins compétents. Peut-être qu'il faut revoir... Alors, les économistes hier parlaient de concevoir le HIV comme un bien public global, c'est-à-dire... Le ministre de la Santé du Cameroun, en 2001, quand nous discutions les accords de Doha, nous disait qu'on ne peut pas considérer un médicament comme un ordinateur. Un médicament ne peut pas être soumis aux mêmes articles de propriété intellectuelle qu'un ordinateur. La question se repose absolument aujourd'hui avec une maladie. Le HIV, les économistes disent, puisqu'il s'agit d'une maladie que l'on peut... éradiquer, dont on peut réduire drastiquement la transmission, c'est donc un bénéfice pour un État. Ça interroge donc la souveraineté des États et peut-être que ça soumet à d'autres normes de régulation. Alors, on ouvre ce débat, il faut inventer une parade nouvelle, si vous voulez, et ça, personne ne peut tout seul le faire, mais ensemble, nous allons certainement trouver des moyens de le faire.
Donc on le comprend bien, il faut mobiliser la communauté internationale, mais on l'a aussi dit, les États. Docteur Mukumbi, qu'est-ce que vous faites, vous, pour alerter le gouvernement de RDC sur ces questions?
Ok, en tant que consortium avec Médecins Sans Frontières et beaucoup d'autres organisations de la société civile locale sur place, on a ce qu'on appelle le consortium SIDA et nous avons toute une action de plaidoyer. Nous avons été au niveau du Parlement et on a parlé aux parlementaires, ceux qui font les lois, et on a été même jusqu'au niveau de la présidence, on a approché le président de la République et là, les nouveaux candidats parlementaires et les nouveaux candidats présidents avant les élections ici, on leur a fait signer des engagements tels que lorsqu'ils sont menés au Parlement, ils prendront encore le taureau par la main pour qu'on ne puisse pas y poser. Donc nous mobilisons suffisamment la classe politique, mais la classe aussi intellectuelle, universitaire, partout pour parler des enjeux de l'avenir, des questions des financements, mais surtout des apports merveilleux que les 5 dernières années ont dû donner avec les antirétroviraux et qu'on ne pourrait pas faire tomber tout cela.
Mais docteur Mukumbi, je ne voudrais pas être désagréable, mais est-ce que vous avez l'impression que ça sert à quelque chose, que les choses changent quand vous mobilisez votre gouvernement? Moi, j'aurais plutôt l'impression que pour l'instant, il n'y a pas grand-chose qui bouge du côté de votre gouvernement.
Oui, c'est un grand éléphant peut-être qui dort un tout petit peu. peu, qui commence à secouer un peu les pattes, mais nous pensons qu'il va se mettre debout et pouvoir courir. Donc c'est notre rôle en tant que militant.
Et quand il court vite, hein, c'est ça l'éléphant.
On espère qu'il va courir vite. Mais je voulais aussi dire que à propos de la crise internationale, parce qu'aussi au pays parfois on dit non, vous savez, la crise internationale et là on ne peut pas trouver l'argent, même les beurs locaux et tout, mais je dis qu'au nom de la crise internationale mondiale, on ne peut pas non plus hypothéquer la vie des citoyens du monde, parce que la vie n'est pas un bien, comme on le disait, matériel, comme on disait par mes collègues tantôt. Donc même au pays, on le dit, aux autorités et tout, il faut donner un peu d'argent, il ne faut pas que la crise internationale qui est grande. On a sauvé les banques du monde avec des milliards de dollars, on ne voit pas pourquoi on ne peut pas trouver suffisamment d'argent, qui est encore infiniment inférieur à ce que nous réclamons, pour pouvoir avoir des traitements pour tous les malades et aussi, surtout, pour tous les enfants qui doivent naître séronégatifs. Donc,
je pense que pour sauver des vies. Je voudrais juste laisser, pour les quelques secondes qui nous restent, un mot de conclusion à Marie-Joseph Atangana. Qu'est-ce que vous voulez dire en conclusion ? Il nous reste quelques secondes.
Ok. Ce que moi, je voudrais dire, c'est que je voudrais appeler toute la communauté internationale, tous les donateurs internationaux, de se remobiliser parce que la situation est très grave et je pense qu'il n'y a rien qui vaille plus dans ce monde que les vies humaines. Il est important qu'on se remobilise.
Merci beaucoup, ouais. Marie-Joseph Atangana, Dr Mukumbi, Bruno Yokoum et Dr Andrieu Meyer. Je voudrais juste vous signaler que jeudi, je recevrai le professeur Pialou qui pourra répondre à toutes vos questions sur le SIDA parce que les auditeurs ont été nombreux à appeler. Ils voulaient poser des questions, mais nous n'avions pas beaucoup de temps aujourd'hui, donc ils pourront le faire jeudi. Merci beaucoup aux techniciens de l'OMS à Genève qui nous ont permis d'établir cette liaison. Demain, on parlera des accidents vasculaires cérébraux et vous pouvez dès maintenant nous faire part de vos questions. Merci à tous et à demain.